Laudetur Jesus Christus.
Jubilé des jeunes, demain soir, ils seront des centaines de milliers à Rome, réunis sur le site de Tor Vergata, en périphérie de la capitale italienne, là où il y a 25 ans, Jean-Paul II avait célébré la messe des JMJ du jubilé de l'an 2000. Retour sur cet événement marquant avec un témoin de premier plan de l'époque, Monseigneur Boccardo. Ce jubilé, c'est l'occasion aussi de présenter des figures inspirant l'espérance. C'est le cas de Pier Giorgio Frassati, qui sera canonisé le 7 septembre, un jeune laïc engagé socialement envers les pauvres morts il y a un siècle. Retour dans notre dossier sur un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. L'Ukraine révise sa copie sur la lutte anticorruption. Une nouvelle loi rapidement approuvée hier rétablit l'indépendance des instances combattant la corruption. Une nécessité aux yeux de la société ukrainienne et des alliés de Kiev. Les manifestations contre la hausse des prix des carburants en Angola ont officiellement fait une vingtaine de morts, mais ce bilan pourrait être bien plus élevé. C'est ce que nous dira un prêtre de la Société des Missions Africaines sur place. Et puis, nous irons dans la ville de Mora, dans le nord du Cameroun, qui a subi une attaque des djihadistes nigériens de Boko Haram. Reportage de notre correspondant dans le pays.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. 1,5 million de pèlerins attendus demain soir sur le campus de l'université de Tor Vergata pour une veillée géante avec le pape. Il s'agit de la première grande rencontre de Léon XIV avec la jeunesse catholique, une manière d'inaugurer son pontificat dans l'espérance et la joie. Ce fut aussi le cas des deux derniers papes, Benoît XVI initiant son pontificat l'année des JMJ de Cologne en 2005, François commençant le sien avec les JMJ de Rio en 2013. Avant cela, l'artisan de ces grands rendez-vous jubilaire des jeunes fut Jean-Paul II. Monseigneur Renato Boccardo, actuel archevêque de Spoleto-Norcia en Italie, a coordonné 4 JMJ sous Jean-Paul II, dont ceux de Rome en l'an 2000. Il revient sur la signification profonde de la veillée de Tor Vergata il y a 25 ans.
Il y a 25 ans, avec Jean-Paul II, on a célébré la Journée mondiale de la jeunesse sur la prairie de Tor Vergata. Et là, les jeunes du monde entier ont entendu des paroles de vérité et des paroles exigeantes, bien sûr. Et si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Je me souviens la grande expression de Jean-Paul II. Et donc, même la prairie de Tor Vergata est un lieu qui est plein de souvenirs et qui représente, même pour les jeunes générations, un temps de grâce. Chaque journée mondiale est un temps de grâce, comme le jubilé des jeunes que nous célébrons ces jours-ci. C'est sûrement le Seigneur qui vient à la rencontre de son peuple. Et il le fait par le ministère de quelqu'un qui lui prête la parole, pour ainsi dire. C'est le pape, ce sont les évêques, ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont témoins d'une histoire de foi de leur pays, d'une tradition de vie chrétienne. Et ils sont porteurs d'un patrimoine et ils sont prêts à l'échanger avec les autres jeunes. Donc Tor Vergata est le lieu de la rencontre, le lieu de l'écoute et le lieu de la mission.
Propos recueillis par Delphine Allaire et nous parlerons de nouveau de ce jubilé des jeunes à travers la figure inspirante de l'un d'entre eux, le futur saint Pier Giorgio Frassati. Pas une nuit sans que les Ukrainiens n'entendent des alertes et ne subissent des bombardements russes. Il y a quelques heures, un homme de 63 ans est mort à Veselyanka dans la région de Zaporizhzhia. Hier, la vague de missiles et de drones ont tué, selon un dernier bilan, 28 personnes, dont 3 enfants à Kiev, la capitale. Une dizaine de ces victimes habitaient un immeuble détruit. 153 personnes ont été par ailleurs blessées. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national aujourd'hui. Dans cette guerre, conserver le soutien des occidentaux, mais aussi celui de la population est essentiel, d'où le vote hier à une grande majorité par le Parlement d'une nouvelle loi rétablissant l'indépendance des institutions de lutte contre la corruption, ce qui met fin à une crise politique qui a duré plus d'une semaine. Aussitôt votée, aussitôt signée par le président, cette loi rappelle au gouvernement ukrainien que la société civile ukrainienne n'entend pas rester silencieuse et que la lutte contre la corruption doit rester la priorité de Kiev si l'Ukraine souhaite continuer donc à bénéficier du soutien occidental. Explication à Kiev d'Emmanuel Chaz.
C'est avec 331 voix sur 340 que le Parlement ukrainien a voté la nouvelle loi proposée par Volodymyr Zelensky pour garantir l'indépendance des institutions clés de lutte contre la corruption. Ce vote est accueilli avec soulagement au sein de la société civile. Depuis plus d'une semaine, la population se rassemblait dans plusieurs villes d'Ukraine pour signifier son mécontentement suite au vote controversé la semaine dernière d'une loi privant ces mêmes institutions de leur indépendance en les plaçant sous l'autorité du procureur général nommé par le président. Face à la pression populaire mais aussi à celle des alliés occidentaux pour qui le soutien financier à Kiev et l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne sont conditionnés entre autres à la lutte anticorruption, le gouvernement a fait marche arrière. Cet événement marque un tournant en Ukraine. C'est la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle du pays par la Russie que la population marque aussi clairement un désaccord avec la politique du gouvernement Zelensky. Jusque-là, un consensus à cause de la guerre avait prévalu. Désormais, la confiance du peuple a été fortement ébranlée. Un peuple qui a montré, comme lors des révolutions de 2004 et 2014, qu'en Ukraine, guerre ou pas, il fallait compter sur lui. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI pour Radio Vatican.
Visite prévue aujourd'hui dans la bande de Gaza de l'émissaire américain Steve Witkoff et de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee. Ils inspecteront les sites de distribution d'aide où des milliers de personnes ont été abattues par l'armée israélienne ces dernières semaines. Les deux diplomates doivent mettre en place un plan pour livrer davantage de nourriture aux Palestiniens du territoire, alors que l'ONU et les ONG dénoncent une situation toujours dramatique, plus de 2 millions de personnes souffrant de la faim. Le Liban déterminé à retirer ses armes au Hezbollah, c'est ce qu'a affirmé hier le président Joseph Aoun, sans donner encore de calendrier, ce qui n'a pas empêché l'armée israélienne de mener de nouveaux bombardements sur le pays, visant, affirme-t-elle, des infrastructures du mouvement chiite. 22 personnes tuées en Angola depuis lundi dans de violentes manifestations pour protester contre la hausse des prix des carburants et accompagnées de nombreux pillages de magasins d'alimentation. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé une enquête sur cette répression. Le père Luigino Frattin, prêtre italien de la Société des Missions Africaines en Angola depuis 1999, estime que le nombre de morts est bien plus élevé que les chiffres officiels ne l'affirment.
Tout d'abord, le nombre de victimes est bien plus élevé, ce sont les chiffres officiels, mais il faudrait peut-être les multiplier par 10. Et puis, comment en sommes-nous arrivés là? Parce qu'on est arrivé à un point de frustration, de crise sociale, de manque de perspective d'avenir, surtout chez les jeunes. Ceux qui ont manifesté sont surtout des jeunes dits marginaux ici, qui n'ont aucune perspective, dont l'avenir est bouché, exclus du monde du travail parce qu'il n'y a pas d'emploi, exclus de l'école, exclus du bien-être qu'ils peuvent voir, car il y a des gens qui vivent bien ici, qui ont un niveau de vie remarquable. Les émeutes ont éclaté maintenant, mais elles auraient pu éclater à d'autres moments. Il suffit de peu. Il suffit d'une étincelle pour déclencher un incendie. Et cette étincelle a été l'augmentation du prix des carburants.
Per far scoppiare un incendio, la scintilla è stato l'aumento dei carburanti.
Des propos recueillis par Giada Aquilino de la rédaction italienne de Radio Vatican. Puis dans un message publié à la suite des émeutes, la conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé appelle au calme et invite au dialogue entre les citoyens et les institutions. Boko Haram, ce groupe terroriste islamiste, n'a pas dit son dernier mot. Il continue de sévir au Cameroun, aux confins avec le Nigeria et le Tchad. Reportage sur l'attaque qui a visé la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Un reportage signé Eba Esson.
Il était environ 23h40 lorsque cet assaillant armé non identifié en fait irruption sur la plateforme multimodale de transport située à la sortie nord de la ville de Mora, le long de la route nationale numéro 1. Ils ont ouvert le feu sur les personnes présentes, plongeant les lieux dans le chaos. Le bilan provisoire faisait état d'une victime fatale, Oumar Oussali, touché mortellement et qui est décédé avant l'arrivée des secours. Deux autres personnes ont également été blessées. Parmi elles, Aladi Mohamed Zaki, un agent d'entretien de 29 ans, et Boukar Panak, un chauffeur de camion de 70 ans en transit pour le Tchad. Ce dernier a été transporté dans un état critique à l'hôpital du district de Mora. Une personne, encore non identifiée, a également été enlevée par les assaillants. Les forces du bataillon d'intervention rapide ainsi que d'autres unités de sécurité sont intervenues mais n'ont pas réussi à appréhender les assaillants. Cette attaque soulève de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité dans cette zone frontalière qui a longtemps été le terrain d'incursion des terroristes de Boko Haram. Elle met également en lumière la vulnérabilité des infrastructures civiles essentielles pour les échanges avec les pays voisins. Il ne fait aucun doute que la problématique de l'insécurité dans le Grand Nord sera au cœur de la prochaine campagne électorale au Cameroun. Eba Isongue, à Yaoundé, pour Radio Vatican.
Le président du Salvador, Nayib Bukele, peut se représenter autant de fois qu'il le veut. Le Parlement a approuvé hier la réforme constitutionnelle abolissant la limite du nombre de mandats présidentiels. Le texte prévoit aussi l'abolition du second tour et l'allongement du mandat présidentiel de 5 à 6 ans. Retour dans notre dossier sur le jubilé des jeunes au travers de la figure d'un jeune laïc italien, Père Giorgio Frassati, bien heureux et qui sera canonisé par Léon XIV le 7 septembre prochain, aux côtés d'un autre jeune, Carlo Acutis, né à Turin dans une famille aisée en 1901. Père Giorgio Frassati meurt à 24 ans d'une poliomyélite foudroyante. Par sa vie courte, le jeune homme dresse un chemin vers la sainteté dès le plus jeune âge par sa joie, sa charité et sa foi. Alors que l'on fête le centenaire de sa mort, Pier Giorgio Frassati est un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ce que nous explique Timothée Croux. Il est séminariste à Rome pour le diocèse de Meaux en France. Il a rédigé un livre sur le futur saint afin d'aider les jeunes à s'inspirer de lui.
C'est un saint complet. Il a vécu sa sainteté en montagne, ce côté aventurier. Il a vécu cette aventure en allant en périphérie, auprès des plus pauvres, dans la Turin industrielle. C'est vraiment une merveilleuse aventure, comme disait Saint Jean-Paul II. Et qu'est-ce que la sainteté ? C'est chercher à suivre et à imiter le Christ dans notre vie. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Frassati a vécu cette miséricorde au quotidien. Et il a fait le lien entre cette charité, cette miséricorde et l'Eucharistie. Il disait « Jésus me rend visite chaque jour par la communion, et moi je la lui rends bien modestement en visitant les pauvres. » Il a tout compris. Il a compris que l'Eucharistie est le sacrement de la charité et qu'il est la source de toute son action de charité dans sa journée. Et donc, il allait à la messe le matin et dans la journée, il allait visiter les pauvres, comme une visite auprès du Christ qu'il reconnaissait dans le visage des plus pauvres.
Avec son groupe d'amis, la société des types louches, Pier Giorgio Frassati a vécu des amitiés solides. Comment les jeunes peuvent s'en inspirer aujourd'hui ?
Il y a une citation dans la Bible qui dit « L'amitié est un élixir de vie ». Et ça, Pier Giorgio, il l'a tout à fait compris. Pour lui, à travers l'amitié, on va pouvoir s'élever ensemble vers la sainteté. Alors, cette société des types louches a quelque chose d'assez incroyable pour le début du XXe siècle. C'était un groupe d'amis mixtes, de jeunes étudiants. Ils cherchaient à vivre une amitié saine dans la prière pour s'élever ensemble. Et quelles étaient les règles ? C'était la joie, la fête, on faisait des blagues. On allait en montagne, on était des aventuriers. C'était l'amitié dans l'aventure. Il y a cette expression, moi, dans l'amitié qui me parle beaucoup, c'est l'amitié cimentée dans la prière. C'est très important aujourd'hui, pour un jeune aujourd'hui, d'avoir des amis solides sur qui il peut compter, mais aussi des amis dont il sait qu'ils vont prier pour lui, qu'ils vont prier pour que notre foi ne défaille pas. Pier Giorgio, il le dit dans une lettre, « Priez pour moi afin que ma foi ne défaille pas, afin que je reste ferme, que je reste fort. » C'est très important, voilà, cette prière dans l'amitié.
L'amitié était quelque chose d'important pour lui, mais il y avait aussi l'aventure, avec ce qui restera un peu comme sa devise, son mantra, « Verso l'alto, vers le haut ».
Verso l'alto, je le lis beaucoup avec cette phrase de Jésus dans l'évangile « Duc in altum ». Quand il dit à ses disciples « Prenez le large, allez jeter les filets au loin ». C'est vraiment un appel à aller en périphérie, sortir de nos canapés, comme disait le pape François, pour évangéliser. N'ayons pas peur de sortir de notre confort de vie pour rencontrer les autres, témoigner de notre foi, témoigner de notre joie d'être chrétien. Le verso l'alto, il parle bien sûr à tous les montagnards, aller vers le haut, cette ascension physique qui est aussi une ascension spirituelle. Pourquoi c'était aussi important pour Pier Giorgio la montagne ? C'est parce que il rencontrait Dieu dans la beauté de la création. Il sentait la présence du Créateur. En montagne, on est seul avec le Créateur, avec ses amis. On quitte un peu ce monde qui peut nous étouffer. Ça ouvre notre cœur à la transcendance, à Dieu.
Pier Giorgio Frassati, c'est finalement un jeune Turinois ordinaire qui vit une vie un peu extraordinaire.
Et c'est ça qui est incroyable dans le message de Pier Giorgio. Il est devenu saint dans une vie ordinaire de laïc étudiant. Il n'a pas été prêtre, il n'a pas été martyr, il n'a pas fondé de communauté religieuse et il a vécu sa sainteté au quotidien. Moi, je le rejoins beaucoup avec un message de Carlo Acutis qui dit « Être toujours uni au Christ, tel est mon programme de vie ». Et ben, je crois que Pier Giorgio, il a vraiment incarné ce programme de vie, être toujours uni au Christ, dès sa plus tendre enfance. C'est pour ça que Pier Giorgio parle aux jeunes aujourd'hui. C'est parce que c'était un étudiant qui a un peu galéré d'ailleurs dans ses études. Ça a été un étudiant qui a un peu eu des difficultés familiales, relationnelles avec ses parents. C'est un étudiant qui aimait la joie, qui aimait l'amitié. Et donc, cette ordinariété, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais en tout cas en italien on peut, de sa sainteté est juste inouïe.
Interrogé par Jean-Benoît Harel, Timothée Croux était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.